Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est l'ombre du Troisième Reich que nous vous proposons cette semaine sur Europe 1, dans les meilleurs moments d'au cœur de l'histoire. Et aujourd'hui, Franck Ferrand lève le voile sur la vie privée d'Hitler.
Bonjour à tous. C'est la traduction, l'année dernière, d'une biographie allemande d'Eva Braun, la compagne d'Hitler, qui a attiré mon attention sur l'intimité du Führer. Nous allons donc parler des amours et des haines intimes d'Hitler, mais aussi de tous les tics et autres manies qui empoisonnaient son quotidien. Mon invité est François Kersaudy. Vous savez qu'il est un des grands biographes français d'Hitler, mais aussi de Gaulle, de Churchill, de Roosevelt, de tous les héros de la Seconde Guerre mondiale.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Après la chute du Troisième Reich, nombreux ont été les familiers d'Hitler à livrer d'abord aux services américains et soviétiques et puis peu à peu à la presse du monde entier des confidences sur l'existence privée de feu Adolf Hitler. C'était cette époque dans les années 50 et 60 où les revues d'histoire proposaient régulièrement à leurs lecteurs les souvenirs de tel architecte, de tel aide de camp, de tel collaborateur du Führer. Parmi ces confidences, j'aurais tendance à prêter un intérêt particulier à celles du docteur Otto Dietrich, qui ont été reprises un peu partout en 1957. Dietrich était le chef du service de presse d'Hitler et, soit concession au vainqueur de la guerre, soit volonté de manifester un certain esprit d'indépendance, il décrit la vie au Berghof, dans le nid d'aigle d'Hitler, avec un détachement et avec une objectivité qui fonde son témoignage un document passionnant. Je vous livre quelques notations glanées au fil de ma lecture. Alors, d'abord, Dietrich nous dit qu'Hitler, à Berchtesgaden, vivait très simplement. En tout cas, qu'il avait vécu simplement jusqu'aux grandes transformations qui ont eu lieu, qui ont été opérées sur la villa en 1937, car à partir de 37, les déjeuners et les dîners revêtent une dimension nettement plus protocolaire. Alors, nous dit Dietrich, les hôtes se rassemblaient dans une pièce voisine de la salle à manger, on annonçait au Führer qu'ils étaient au complet lorsque le quorum était atteint, et à ce moment-là, il fallait attendre, parce que Hitler n'avait pas d'heure très précise pour déjeuner. Ça pouvait être entre midi et demi et 3h, ça dépendait des audiences et des conférences de la journée. Et il y avait toujours entre 10 et 20 invités, parmi lesquels on remarquait beaucoup de femmes. Il faut savoir, précise Dietrich, que lorsqu'elle venait au Berghof, Eva Braun amenait sa sœur cadette, l'une de ses camarades de lycée et une ou deux femmes mariées de ses amis, ce qui fait qu'on voyait autour d'elle comme ça un certain nombre de femmes. Alors, Hitler finissait par descendre et puis le maître d'hôtel annonçait à Hitler, et non pas à Eva Braun, que monsieur était servi. Les hommes donnaient le bras à leur cavalière et donc on suivait Hitler dans une espèce de grand couloir bordé de colonnes qui menait jusqu'à la grande pièce lambrissée de bois naturel où avaient lieu les repas. Alors vous le savez, on l'a suffisamment dit, je pense, qu'Hitler était végétarien, il ne mangeait jamais ni viande ni poisson. En fait, il se nourrissait presque exclusivement de légumes cuits ou crus, et puis là, il mangeait des pâtes également. Il ne pouvait digérer ni le pain ni le beurre et pendant très longtemps, la base de son alimentation s'est composée de biscottes et de biscuits, de miel, de sauce tomate, de champignons et de yaourt. Je vois Julia ouvrir de grands yeux. C'est un personnage dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est bourré de phobies. Nous allons y venir tout à l'heure avec François Kersaudy. Il est bourré de manies, de tics, etc. C'est un obsessionnel compulsif, incontestablement. Et dans la façon de se nourrir, évidemment, ça ressort très fortement. Et il ne boit pas non plus une seule goutte d'alcool, mais il n'essaie pas pour autant de convertir ses hôtes, ni à l'alimentation végétarienne, ni au fait de ne pas boire d'alcool. Il n'empêche qu'à sa table, personne n'oserait boire autre chose que de l'eau. Il déteste les cigarettes également. Il disait « Si j'offrais des cigarettes, ce serait à mon ennemi et pas à mon ami ». Alors de quoi parle-t-on à la table d'Hitler? Le moins qu'on puisse dire, c'est que la conversation tourne un peu en rond. On parle de la nourriture justement, des vitamines, des calories, des régimes, ça le passionne. Et puis de la chasse, mais attention, de la chasse pour en dire du mal, parce qu'il est totalement opposé à la chasse. D'ailleurs, il a fait interdire l'accès de tout l'Obersalzberg aux chasseurs. Et puis, il parle de sa vie, de ses voyages. En gros, c'est lui qui parle et les autres, les autres écoutent. Oui, voilà. Alors, il fait semblant, il s'efforce en tout cas d'avoir de l'humour, nous dit le docteur Dietrich. Seulement, c'était un humour très lourd. Ses blagues étaient toujours tirées par les cheveux, dit Dietrich, et ça créait un sentiment pénible parce que les gens faisaient semblant de rire, mais c'était pas toujours très drôle. Bon. Les repas, à la fin du repas, on se levait de table, ça durait donc pas très longtemps, et puis Hitler montait travailler un peu, et ensuite, on allait au fameux pavillon de thé, qui se trouvait à environ un quart d'heure de marche en montant par un petit sentier, et là, avait lieu une sorte de cérémonie quotidienne. Alors, que faisait-on dans ce pavillon de thé? Pas grand-chose, et de nouveau, c'est Hitler qui animait globalement la conversation, on y restait quand même une heure ou deux, et puis les invités redescendaient tranquillement, en voiture, en attendant quoi? En attendant dans un dîner qui parfois pouvait se faire attendre très longtemps.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec un récit sur Europe 1 qui lève un coin du voile sur la vie privée d'Hitler, sur son quotidien, ses goûts et ses nombreux dégoûts, Franck.
Oui, il y a un très nombreux dégoûts. Il était au Berghof à ce moment-là. Et là, la pièce centrale du Berghof, c'est le fameux grand hall auquel on accédait par un escalier en marbre rouge. Il y avait là d'immenses fenêtres à coulisses qui s'ouvraient sur cet extraordinaire paysage alpin. Vous avez vu ça, et forcément, on a vu toutes ces images de Hitler à Berchtesgaden. Alors, il travaillait là. D'ailleurs, debout devant une grande table qui était placée près d'une fenêtre, et il y avait à côté un énorme globe terrestre. C'était presque comme dans le film de Charlie Chaplin, Le Dictateur, vous savez. Dans ce grand hall avait lieu, après dîner, pendant la guerre, c'était les conférences, évidemment, avec un certain nombre de généraux, c'était des conférences stratégiques, mais jusqu'en 1940, il y a eu là des projections de films. Hitler se faisait projeter dans ce grand hall du Berghof des films allemands ou étrangers. Du reste, souvent, il y avait deux films dans la soirée. Quand il n'y avait pas de séance de cinéma, il écoutait de la musique classique, de l'opéra, parfois de l'opérette, ou alors il faisait venir des magiciens. Ça, c'est une chose qu'on dit rarement, mais il avait une espèce de fascination pour les prestidigitateurs, et alors il adorait voir les magiciens faire des tours comme ça, ça le faisait rire comme un enfant. Bon, on est quand même en présence d'un personnage assez spécial, on va y revenir évidemment largement dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, vers 11h30 ou minuit, eh bien tout le monde repassait au salon, et alors là, qu'est-ce qu'on faisait? On attendait qu'Hitler aille se coucher, mais il arrivait que ce soit très très tard, à 4h, à 5h du matin, et vous imaginez les invités qui sont là, qui d'ailleurs meurent de froid parce qu'Hitler fait toujours maintenir la température à un degré très faible, 12-13 degrés, il fait vraiment un froid de canard dans ce Berghof, et les gens sont là et ils attendent le plus près possible de la cheminée qu'Hitler ait envie d'aller se coucher. Et ça, c'est, nous dit le docteur Dietrich, sur les témoignages duquel je m'appuie pour vous raconter ça, c'est la seule circonstance où j'ai vu le Führer se montrer particulièrement mal élevé, dit-il. Il ne se souciait pas du tout que ses invités soient fatigués, et les dames notamment bâillaient à s'en décrocher la mâchoire en attendant qu'il veuille bien lever le camp, ce qui avait lieu très tard. Et comme lui-même se couchait très tard, il dormait, il faut dire, très mal et très peu, il arrivait qu'il se lève très tard aussi. Les journées étaient très décalées vers le soir et vers la nuit, en fait. Il vivait presque autant la nuit que le soir. D'ailleurs, ses voisins, bien avant qu'il ne soit chancelier du Reich, l'appelaient déjà le loup. Il avait quand même quelque chose comme ça d'assez noctambule. Alors, celle qui était censée mettre un peu de variété et de gaieté dans tout ça, c'était Eva Braun, bien entendu, qui était sa compagne. Cette compagne qu'il épousera quelques heures seulement avant leur suicide commun. Pour connaître mieux les relations entre Hitler et Eva Braun, eh bien, il faut aller scruter notamment ces fameux 33 cahiers qui constituent une mine d'informations, des cahiers que les services de renseignement de l'armée américaine ont saisis en Bavière, dans des réduits secrets où Hitler avait un temps envisagé de se replier. Les cahiers d'Eva Braun, la compagne d'Hitler, sont des albums de photos essentiellement qui sont commentés. Il était facile à Eva Braun de se procurer toutes les photos possibles, soit par l'intermédiaire de son ancien patron, puisqu'elle avait rencontré Hitler à l'époque où il était tout nouveau chancelier, par l'entremise du photographe officiel Hoffmann, dont elle était l'employée, soit directement par les services de la propagande. Alors que nous révèlent les fameux albums de la compagne d'Hitler, Eva Braun? D'abord, Eva Braun déplore constamment le caractère insaisissable du chancelier, hein, ses fausses promesses. Il passe son temps à lui dire, mais ça c'est le cas de beaucoup d'hommes politiques ou beaucoup d'hommes d'État. Il lui promet qu'il va venir la voir et en fait il annule toujours à la dernière minute. Elle regrette aussi la froideur avec laquelle il peut la traiter en public. Par exemple, en 1938, il y a une fête qui est donnée chez le photographe Hoffmann, qui donc était l'employeur de Mademoiselle Braun. Et Hitler arrive et, en tant que chancelier, et il la salue au milieu des autres sans rien manifester de personnel, ce qui va la plonger dans les affres. Et pourtant, écrit-elle sous la photo qui montre ses froides salutations, et pourtant il me connaît bien. Le fait est qu'elle est alors sa maîtresse depuis 5 ans. Eva déplore par ailleurs la jalousie d'Hitler, jalousie notamment à l'écart du comte Ciano, vous savez, le gendre et ministre des Affaires étrangères de Mussolini, pour lequel Eva éprouve un peu plus que de l'admiration. Eh bien, lors d'une visite au Berghof du comte Ciano, Hitler donne l'ordre à Eva Braun de rester dans sa chambre, carrément. Elle conservait dans ses albums le menu du premier pas qu'elle avait pris avec le chancelier, ainsi que séché la première fleur qu'il lui avait donnée, mais pour autant, on serait bien en peine dans ces 33 albums d'aller chercher le moindre mot qui trahisse la femme amoureuse. En Hitler, c'est le Führer qu'admirait évidemment Eva Braun, et ça jusqu'à la dévotion, certainement pas l'homme. Du reste, dans la biographie qui vient de sortir, la biographie d'Eike Görtemacher, on voit que l'engagement politique très actif d'Eva Braun au sein du parti nazi domine l'ensemble de son histoire avec Hitler finalement. Alors il y a aussi, en dehors de ces fameux albums, il y a des bobines de films amateurs qui montrent une Eva Braun toujours assez joyeuse, active, qui ne donne pas le sentiment de s'ennuyer à Berchtesgaden. Elle est d'une grande familiarité avec Hitler, on la voit là très intime, hein. Elle pose devant lui, elle le place à côté d'elle pour la prise, elle va même jusqu'à lui faire des grimaces. Ce qu'il faut noter, c'est que 5 des 33 albums en question, les albums de photos donc, sont consacrés à des photos d'enfants. Et parmi ces photos, une bonne centaine représentent un petit garçon dont Gunn, nous allons voir qui était ce personnage, nous dit, celui qui a donc publié le premier les fameux albums, dont il nous dit que la ressemblance avec Hitler était frappante. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette énigme ou pseudo-énigme? On va le voir dans un instant avec François Kersaudy. Ce qui transparaît aussi dans les documents privés d'Eva Braun, c'est le caractère ultra-protecteur d'Hitler qui l'entoure de près. Hein. Eva Braun n'a le droit ni de conduire, ni de pratiquer l'alpinisme, ni même de se rendre à Munich ou Berlin à partir du moment où les bombardements vont commencer sur l'Allemagne. Et ce que nous allons voir dans un instant, c'est qu'Hitler a été finalement peut-être plus proche d'Eva Braun que l'inverse. Ce n'était pas un bourreau des cœurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a éprouvé une grande passion dans sa vie pour sa nièce, fille de sa demi-sœur, Geli Raubal, Geli qui s'est suicidée, comme tant d'autres femmes ayant croisé sa route. Dans un instant, nous allons faire un peu la lumière sur cette vie très privée, sur la vie sentimentale d'Adolf Hitler.
L'ouverture du Tannhäuser de Wagner sur Europe 1.
J'allais dire que c'était assez indiqué puisque nous parlons d'Hitler et de sa vie privée aujourd'hui en compagnie de François Kersaudy. Bonjour François Kersaudy.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Tout le monde vous connaît évidemment, vous êtes le grand spécialiste de cette période et aussi de ce personnage. Vous avez enseigné à Oxford et à la Sorbonne bien entendu. Est-ce qu'on peut dire que Hitler avait une vie privée finalement? Parce que ce que vous montrez dans votre propre ouvrage, dans la biographie que vous lui consacrez chez Perrin, c'est qu'à partir du moment où l'on entre dans les opérations militaires, avant même la guerre, la vie privée du Führer se confond avec sa vie publique.
Oui, absolument. Le livre, effectivement, est consacré à Hitler en tant que chef de guerre. Forcément, il faut quand même un petit peu amener le personnage et montrer à qui on a affaire. Pour ce qui est de la vie privée, si vous permettez, je vais ouvrir par un scoop, parce que apparemment, ça n'est même pas signalé dans la biographie qui vient de paraître. Hitler était impuissant. Donc,
toutes ces
histoires de maîtresse, c'est très bien. Il faut voir ce qu'on entend par maîtresse.
Ce sont plutôt des amis, alors des compagnes, comment peut-on
ce
dire ?
Ce sont des faire-valoir.
Oui.
Alors, il y a, dans l'entourage d'Hitler, on va parler femmes.
Hein. Oui, bien sûr. Oui.
Il y a trois catégories. Il y a les dames d'un certain âge qui ont des attentions maternelles pour Hitler. D'ailleurs, on les appelait les Hitler-Mutti, hein, voilà, les mamans Hitler. Hein, ce sont des dames qui l'ont pris sous leur protection, qui l'ont financé d'ailleurs. Hein, Winifred Wagner, par exemple, hein, Carola Hoffman, Helen Beckstein, des pianos, etc. Elsa Bruckmann aussi. Mm-hmm. Et toutes ces dames, témoigne une espèce de vénération platonique, donc on ne les a pas appelés seulement d'ailleurs les mamans Hitler, la garde rapprochée, les gardes du corps d'Hitler les avaient appelés la brigade des bas avarices.
Ça donne une idée pas très politiquement correcte,
mais bon, donc ça c'est le premier entourage très utile, hein, de ces admiratrices d'âge mûr. Le deuxième, ce sont les jeunes, en général d'assez jeunes filles d'ailleurs, qui papillonne dans son entourage et à qui, évidemment, on prête qu'on appelle des maîtresses et que Hitler tolère dans son entourage, mais évidemment, dont, y compris d'assez connus, d'ailleurs, comme Unity Mitford, hein, comme Leni Riefenstahl, comme la fille de son chauffeur, comme la fille d'un chanteur d'opéra qui s'appelait Gretel Slezak, etc. Il y en a des quantités, et celle-là aurait sans doute voulu être les maîtresses d'Hitler, pour des raisons qu'on vous expliquera, en fait, elle ne l'était pas. Bon, mais elle papillonnait quand même autour. Et puis, il y a celle qui se sont vraiment, qui étaient vraiment dans son intimité. Alors la première, les deux que vous avez cités d'ailleurs, Geli Raubal, ça c'est une histoire triste, hein, mais c'est la fille de sa demi-sœur. C'est la seule dont on pense qu'il a pu avoir un sentiment humain pour elle. Hein, tout ce qui,
ah oui, vous êtes pour le moins réservé, parce qu'on le présente souvent très passionné pour Geli Raubal.
Oui, passionné. Passionné à la Hitler. Hein, il avait bien d'autres choses à faire. Mais enfin, il avait des sentiments. On avait vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose. Et donc, il était d'une jalousie maladive. Et ça s'est mal terminé, puisqu'elle s'est suicidée. Avec, d'ailleurs, le revolver d'Hitler. Après ça...
Ça, c'est en 31. C'est
alors,
tôt,
ça,
hein.
C'est en 31. Oui. Ça, c'est en 31.
Et puis
31.
Après ça, il y a Eva Braun.
Alors, on dit après, c'est pas tout à fait juste, parce que Eva Braun l'a rencontrée en 29. Donc, il n'était pas encore chancelier. Et elle était déjà un petit peu amoureuse, mais elle avait 17 ans. Donc, vous avez 17 ans, bon, voilà.
Nous revenons sur le cas d'Eva Braun dans un instant, François Kersaudy.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Sur Europe 1, Down the Road.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Eva M.
Smoke gets in your eyes.
Sentir love emmène au paradise. Holy dances, holy days are nice. Eva M.
Smoke gets in your eyes.
Ah, comme parfois j'aimerais qu'elle aille se faire foutre avec.
Smoke gets in your eyes.
ses esprits aigles rirent jeunes.
Un extrait d'Eva sur Europe 1 de Serge Gainsbourg.
Oui, Serge Gainsbourg qui chante « Eva M. Smoke Gets in Your Eyes » parce que Eva Braun, donc la compagne d'Hitler, avait une prédilection pour cette chanson dont je vous rappelle quelques mesures. On est dans toute l'atmosphère d'une époque. Ce que nous dit François Kersaudy et qui explique bien des choses, non seulement sur les relations d'Hitler avec les femmes, mais d'une façon plus générale sur son comportement dans la vie, c'est qu'il était impuissant pour commencer. François Kersaudy.
Oui, alors ce qui trompe, c'est que, comme disait un de ses compagnons, il faisait très bien les préliminaires. Il était extrêmement galant avec les dames.
Les politesses autrichiennes.
Les baise-mains, les fleurs, c'était sa grande spécialité. Il avait une grande galanterie. Et donc, on pensait que la suite allait correspondre. Or, ce que l'on... Alors là, on le sait, parce qu'il y a trop de témoignages. Ce qui se passe après, ben après, justement, il n'y a plus personne. Vous prenez le trésorier Schwartz, qui dit que c'est une relation platonique. Hoffmann dit la même chose. La secrétaire Christa Schröder dit la même chose. Les relations de Manchev avec les femmes étaient de nature purement platonique. Et puis, alors là où ça devient autodidacte, je parle d'une phobie de contact, qui est quand même intéressant, la phobie de contact. Mais il y a deux témoignages qui sont encore plus précis. Il y a le témoignage du couple Esser. Esser, c'est un vieux compagnon, c'était le rédacteur en chef du Völkische Beobachter, c'était un homme qu'il a bien connu, et Eva Braun faisait des confidences à sa femme. Eva Braun était la marraine de sa fille, qui s'appelait Eva d'ailleurs, et Eva Braun a dit à la femme de Esser, als Mann habe ich von ihm nichts, c'est-à-dire en tant qu'homme, Hitler ne me donne rien. Donc ça, on peut pas être plus précis. L'autre source qui est quand même très intéressante, c'est un certain Ernst Hanfstengel. Hanfstengel, autre vieux, très vieux compagnon d'Hitler, c'était son responsable de la presse étrangère, moitié américain, moitié allemand, un curieux personnage d'ailleurs, mais qui connaissait très très bien Hitler. Et qui, lui, est une très bonne source, parce que tout simplement parce qu'il a partagé les maîtresses d'Hitler. Et en fait, il a eu les confidences de toutes celles qui avaient passé des soirées prolongées avec Hitler. Et donc, c'est vraiment un témoignage de première main, si j'ose dire. Et il dit très simplement, à chaque fois que je leur demandais comment ça s'était passé, elles levaient les yeux au ciel et l'une d'entre elles m'a dit « Ton Hitler, ce n'est qu'un vieux voyeur ». Point. Donc, évidemment, après ça, on comprend bien
que...
On
ne peut pas faire de psychologie facile, mais on peut dire qu'une grande partie de toutes ces phobies, de toutes ces manies qui l'habitaient, est peut-être liée justement à ces blocages énormes.
Alors oui, certainement. Enfin, moi, c'est très difficile. Aucun psychiatre n'a jamais approché Hitler. D'ailleurs, il n'est pas certain qu'il aurait survécu. Mais c'est certain que il aurait fait les délices. Vu le nombre de phobies, il aurait fait les délices d'un psychiatre.
Nous avons parlé tout à l'heure de cette passion, donc que vous confirmez platonique avec Geli Raubal. Elle s'est mal finie, vous dites qu'en 1931, elle s'est suicidée avec le revolver même d'Hitler. Elle n'est pas la seule femme à s'être suicidée dans l'entourage d'Hitler.
5 sur 6 des femmes qui ont été associées de près ou de loin à Hitler se sont suicidées ou bien ont essayé de le faire. Ça fait quand même évidemment beaucoup. La personnalité un petit peu démoniaque du personnage y est certainement pour quelque chose, son impuissance probablement aussi. Certainement, en tout cas, cette espèce d'ambiance qui faisait régner autour de lui, qui était extrêmement malsaine, pouvait aussi pousser à ce genre de choses. Il y a un grand nombre de témoignages de gens qui l'ont bien connu, même avant la guerre, comme Rauschning, qui disait qu'en présence d'Hitler, il se sentait comme sous une emprise et qu'ils avaient beaucoup de mal à s'en débarrasser par la suite. Alors, du côté des femmes, Eva Braun, par exemple, était une femme sous influence.
Oui, mais en même temps, on a presque l'impression qu'elle vit une vie quasiment normale. Quand on voit les films ou quand on feuillette justement ces fameux albums de photos, on a l'impression que c'est l'épouse d'un haut dignitaire, comme il y en a tellement, et qu'elle elle a même sa vie à elle, assez indépendante, toujours assez joyeuse.
Elle met en scène, c'est quelqu'un qui met en scène, elle a des dons pour la photographie de toute évidence, elle a travaillé pour un photographe, et elle filme la vie qu'elle voudrait mener, qu'elle aimerait mener, et il faut voir que c'est un couple c'est extraordinairement mal assorti. Vous avez dit que Hitler ne fumait pas, ne buvait pas, ne mangeait pas de viande, etc. etc. Eva Braun fumait, buvait.
Elle adorait danser.
Alors
que lui ne dansait pas.
Adorait faire du sport. Hitler ne dansait évidemment pas, n'a jamais fait de sport de sa vie. Et elle adorait s'amuser, elle adorait sortir, elle adorait voyager, ce qu'Hitler évitait comme la peste. Et donc, elle essayait de se faire une existence. Elle était beaucoup plus heureuse d'ailleurs quand Hitler n'était pas là, en fait, tout en souhaitant qu'il revienne. Enfin, c'était très curieux. C'est pas un syndrome de Stockholm parce qu'elle n'est pas vraiment prisonnière, mais c'est une femme qui est sous emprise. Sinon, on ne comprendrait pas ce qui s'est passé à la fin.
Elle admirait incontestablement le leader politique, elle bénéficiait du statut qu'il lui prodiguait, mais à côté de ça, moins elle voyait l'homme et mieux elle se portait.
Oui, je ne sais pas si elle était consciente elle-même. En tout cas, elle était très malheureuse de ne pas être considérée comme la première dame du Reich, parce qu'en fait, elle était cachée. Vous avez parlé de Ciano, c'était pas seulement Ciano. À chaque fois que venait un dignitaire étranger, personne ne voyait Madame Eva Braun. Mademoiselle Braun, on ne savait pas qui c'était. Les Allemands, d'ailleurs, ne l'ont su qu'après son suicide.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant.
Juste insoufflé, je vacille. Regarde autour de nous, tout scintille. Une phrase me blesse ou délébile. Sur un fil, sur un fil. Un regard et je dégringole. Si je t'offre un secret, tu décolles.
C'est Circus sur Europe 1, sur un fil.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et nous sommes toujours avec François Kersaudy qui consacre une biographie à Hitler chez Perrin, Franck.
Et François Kersaudy, un de nos auditeurs, Johan, nous rappelle que j'avais promis la réponse à une question, la question que posait Nérine Gün à propos de cet enfant qui figure sur plus de 100 photos avec Hitler et qui ressemble à Hitler comme deux gouttes d'eau, nous dit Nérine Gün.
Oui, ça c'était l'appréciation de Nérine Gün. Alors je ne sais pas si l'enfant avait une petite moustache et une mèche sur le front, mais à première vue, ça, vu qu'Hitler était impuissant et vu qu'il ne voulait absolument pas d'enfant...
On lui en a attribué d'autres, des
on
enfants.
On lui en a attribué d'autres, y compris d'ailleurs un enfant français qu'il est censé avoir eu pendant la Grande Guerre dans les tranchées dans le nord de la France. Alors là, c'est une blague encore plus énorme, parce que non seulement Hitler ne voulait pas s'approcher des femmes, mais encore moins des femmes françaises et belges qu'il considérait comme des ennemis et qu'en plus, il serait comme sale. Or, Hitler avait la phobie, parmi les nombreuses phobies la phobie de la propreté.
Vous avez vous-même rencontré un des aides de camp d'Hitler?
Oui, absolument. Le contre-amiral Karl Jesko von Puttkamer, qui était encore là en 1974, et qui me racontait beaucoup de choses justement sur qu'est-ce que c'était que de travailler dans l'entourage d'Hitler.
Il était très désordonné finalement.
Alors, il était, et ça c'est très important parce que justement, vous avez parlé un petit peu de son emploi du temps journalier, c'était quelque chose de terrifiant. Hitler ne travaillait pas, on ne pouvait pas le voir. C'est lui qui devait prendre les décisions, mais il ne les prenait jamais. Ou alors il les prenait au tout dernier moment, dans une espèce de frénésie ou d'extase, quand il ne pouvait pas faire autrement. Et comme tout devait remonter à lui, c'était affreux, parce qu'effectivement, il se levait à midi, il déjeunait, après avoir regardé la presse, etc., vers 2h, tout était décalé après il adorait aller dans les cafés et discourir sans discontinuer, parler à l'infini avec des admirateurs ou des admiratrices tout autour, en général jeunes, il les préférait jeunes parce que pas de contradiction, mais quand il fallait prendre des décisions sérieuses, et c'est là que se pose le problème, il n'y avait plus personne, et les ministres ne le voyaient jamais.
Il n'y avait pas de Conseil des ministres. Hein,
et alors, le Conseil des ministres ne s'est plus réuni depuis 1937. Ce que je vous disais, c'était que les ministres avaient demandé à la chancellerie si, par faveur, ils ne pouvaient pas venir au moins une seule fois pendant tout le régime pour se faire photographier dans le bureau du Conseil des ministres à la chancellerie pour qu'on sache que quand même, ils avaient été ministres et qu'ils avaient été dans le bureau du Conseil.
Parce qu'on n'avait même pas besoin
d'eux. On leur accordait par faveur. Mais il n'était pas question de réunir un Conseil des ministres parce que Hitler avait peur que les ministres fassent bloc contre lui. Et qui prennent des décisions qu'il n'approuverait pas. Et donc, en matière civile et en matière militaire, c'est lui qui prenait toutes les décisions. Mais comme il était incapable de tout travail suivi, eh bien, les décisions étaient prises au hasard, n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. Et évidemment, ça donnait des résultats totalement désastreux.
Mais à chaque fois que j'entends dire, que j'entends décrire ainsi le désordre, l'incapacité de travail de Hitler, etc., je me dis, mais comment, avec tous ces handicaps effrayants, cet homme a-t-il pu se hisser à un tel niveau ?
Justement, c'est la question principale. Sur la conquête du pouvoir, il était remarquablement organisé parce que c'était un comploteur né. Par contre, c'était un organisateur absolument terrifiant. Il ne savait pas organiser. Il avait des gens pour ça. Qui ne laissait pas faire, d'ailleurs, en général, parce qu'il était très méfiant. Il donnait des ordres qui étaient incohérents. Et après, le plus souvent, d'ailleurs, il ne s'occupait pas de l'exécution de ses ordres. Mais quand il s'apercevait que les ordres n'étaient pas exécutés, là, il entrait dans une rage folle. Et évidemment, tout ça faisait qu'il n'y avait pas de politique suivie dans quelque domaine que ce soit, ni dans le civil, ni dans le militaire. Et les ministres, je vous ai dit, étaient insignifiants. Le chef d'état-major ne servait à rien parce qu'il ne pouvait prendre aucune décision autonome. Il y a une institution qui s'appelait l'Oberkommando der Wehrmacht, qui était donc le commandement supérieur de la Wehrmacht. C'était la courroie de transmission des ordres d'Hitler. Elle ne prenait aucune initiative. Toutes les décisions venaient du Führer lui-même. Et elles étaient prises vraiment sur la base de renseignements souvent fantaisistes, sur la base d'inspiration, sur la base de ce qu'il a lui-même d'ailleurs appelé des secousses et des convulsions. Ouais. Hein, et donc c'était vraiment un système totalement déréglé,
aberrant,
sur lequel malgré tout, et militairement ça n'avait évidemment aucun sens, mais le Reich a quand même résisté pendant 6 ans à une coalition pratiquement du monde entier, ce qui est quand même assez fabuleux. Quand vous voyez la façon dont les décisions étaient prises.
Alors juste un petit mot sur parce qu'on a parlé de tous ses dégoûts, mais il avait un grand amour pour sa chienne berger allemand Blondie.
Blondie, oui, parce qu'elle était soumise. D'ailleurs, tout ce qui était soumis, c'est un petit peu comme pour Staline. Tout ce qui était soumis, ça allait. À partir du moment où il y avait une velléité d'indépendance, ça n'allait plus. C'est quelqu'un qui était aussi, il faut bien le dire, terriblement complexé. Il s'était déclaré comme le plus grand chef de guerre de tous les temps, mais ça, c'était pour la galerie. En fait, il avait des doutes.
Il
avait de bonnes raisons, d'ailleurs, d'avoir des doutes. Et donc, il lui fallait être entouré, c'est ce que m'avait dit, d'ailleurs, son aide de camp. Pourquoi est-ce qu'il se confiait à ses aides de camp et qu'il parlait librement devant ses aides de camp et ses secrétaires? Parce que c'était des gens soumis. Mais à partir du moment où il se trouvait en présence de généraux qui, eux, connaissaient la guerre et qui avaient été formés pour ça, eh bien, il était très mal à l'aise. Et donc, il aboyait, il donnait des ordres et il n'y avait pas de discussion. Il n'y avait jamais de discussion. Si vous me demandez qui était le conseiller militaire d'Adolf Hitler, je dis qu'il n'en avait pas.
Merci beaucoup, François Kersaudy. Je rappelle évidemment votre biographie d'Hitler chez Perrin. Également, vous avez retraduit et présenté les confessions d'Eddie Chapman. Ça s'appelle « Ma fantastique histoire ». Ça sort chez Texto aujourd'hui. On fera peut-être une émission sur le sujet parce que ça mériterait. Hein. C'est un personnage tout à fait extraordinaire, un agent double.
Agent double, fantastique. Oui. Il a été décoré de la Croix de Fer par les Allemands, d'ailleurs, tout en les trompant pendant tout le temps. Et c'est un ancien perceur de coffre-fort. Enfin, il a eu une vie absolument extraordinaire.
Et puis, vous avez également été le biographe, bien sûr, de Churchill, de Gaulle, de la relation des deux, de Lord Mountbatten aussi, qui ferait l'objet d'une belle émission. Que
fabuleux.
De projets, quand
fabuleux.
On vous rencontre.
Et un bel homme, mesdames, un très bel homme.